Donc maintenant, nous prenons officiellement l'ordre du jour du Conseil municipal du 8 novembre. Premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que vous l'avez reçu la semaine dernière? Est-ce que vous avez des questions, des observations à faire sur ce procès-verbal? Donc, qui est contre? C'est difficile. Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, il est approuvé. Second point du Conseil, c'est l'installation d'un conseiller municipal. Par courrier en date du 25 septembre dernier, Mme Myriam Cheriani nous a informé de sa démission de membre du Conseil municipal. Il convient donc de combler le siège devenu vacant au sein de cette Assemblée. Au terme de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Et donc, en l'occurrence, il s'agit de Franck Pupier, donc qui est parmi nous. Il est donc appelé à siéger à compter de la présente séance. Nous procédons donc à son installation et nous allons lui demander rapidement de se présenter, carrière professionnelle et investissement sur la commune.
Ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc Franck Pupier, j'ai 46 ans. J'ai trois enfants qui sont passés à l'école de Jules Ferry, tous les trois, sur la commune. Je suis sur la commune depuis 2011. Voilà. Je suis responsable achat, vie professionnelle, je suis responsable achat dans une société Nidec à Roche-la-Molière qui est spécialisée dans le stockage d'énergie. Je suis sur la commune président du club de basket depuis quelques années maintenant. Je ne sais même plus exactement d'ailleurs combien d'années. Et voilà pour les grosses lignes. J'en profite pour vous dire que je cède ma place de président du club de basket en fin de saison. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition à la fin du conseil.
Bien, merci à toi. Donc, on te déclare officiellement installé au sein du conseil municipal. Bienvenue. Ta connaissance, en particulier du monde associatif sportif, sera également pour nous un atout. Hein. Donc voilà. Par contre, j'avais oublié de vous informer des pouvoirs qui ont été donnés. Donc Raymond Repellini a donné son pouvoir à Claude Bruno. Fabrice Adam a donné son pouvoir à Antoine Di Paolo. Et Jacques Pellegrin a donné son pouvoir à Michel Huissassia. Donc Franck, on verra après hein, dans les différentes commissions municipales. Si on verra ensemble hein, celles qui t'intéressent pour que tu puisses y être associé. Bon, il n'y a pas de formalisme. Il y a effectivement la désignation des élus dans les commissions. Mais s'il y a des commissions où tu n'es pas désigné, mais que tu souhaites y participer, c'est tout à fait envisageable. En point 2, nous avons l'état des décisions du maire. Donc la seule que j'ai... Donc ce sont les décisions qui vont de la 50 à la 58. C'est la décision 53 du 13 septembre 2021. C'est un marché avec l'entreprise La Boule à Neige. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a rien à voir avec Noël. Puisque c'est l'agence réciproque pour la conception, la mise en page et l'impression du bulletin municipal de la commune. Conclu donc pour une période du 23 octobre 2021 au 22 octobre 2025. C'est un marché à bon de commande avec un seuil minimum de 14 724 euros annuels hors taxes. Et un seuil maximum de 18 396 euros hors taxes. Pourquoi ? Parce que la facturation se fait en fonction du nombre de pages du magazine. Donc, si on veut faire un article plus approfondi ou une thématique particulière, ben, ça nous coûtera plus cher qu'un magazine normal. C'est pour ça qu'on a une fourchette de prix par rapport à ça. Avez-vous des remarques à faire par rapport aux décisions du maire, les autres décisions qui vous ont été proposées ? Donc on va passer sur le point peut-être le plus important de ce conseil, puisqu'il s'agit donc de la convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale de la Loire. Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion, État-CNAF, donc Caisse nationale d'allocations familiales, la CNAF s'est engagée à favoriser le développement de projets de territoire formalisés au moyen de conventions territoriales globales, c'est-à-dire CTG. Une CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer la cohérence et l'efficacité dans la mise en œuvre des politiques d'action sociale sur un territoire donné. En mettant en perspective les réponses apportées et leurs interactions, elle clarifie le rôle des différents acteurs et elle se concrétise par la signature d'une convention. La Caisse d'allocation familiale de la Loire s'est engagée dans cette démarche. Elle a sollicité les communes de la Tour-en-Jarret, Létra, Saint-Priest-en-Jarret, Villars, Saint-Genélaire et Roche-la-Molière pour la mise en place d'une CTG intercommunale. Ainsi, sur un même territoire, les communes renforceront les actions portées dans des champs d'intervention communs. Un projet stratégique global a été établi à partir d'un diagnostic partagé. Il tient compte de l'ensemble des problématiques du territoire et identifie les besoins prioritaires sur les 6 communes. Ce projet vise à pérenniser, à optimiser l'offre de services existantes et à développer des actions nouvelles permettant ainsi de répondre à des besoins non encore satisfaits. L'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation de cette convention sont portées conjointement par les 6 communes et la Caisse d'allocation familiale de la Loire. Toutes les décisions sont prises par un comité de pilotage. La convention présentée est conclue pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025. C'est vrai qu'avec la CAF, on a, j'aurais presque l'habitude, de signer des conventions en fin d'année civile pour une date d'effet au 1er janvier de la même année. En plus, là, il y avait 2 communes qui étaient en fin de contrat enfant-jeunesse, donc qui avaient, eu un avenant pour pouvoir rentrer dans le cadre de la CTG au 1er janvier 2021. De nombreux groupes de travail rassemblant les élus, les services et les partenaires du territoire se sont réunis. On vous en a rendu compte régulièrement. Ils ont permis de définir 4 axes de travail pour les prochaines années. Pour chacun de ces axes, des plans d'action ont été réalisés. Donc c'est le document annexe à la convention. Vous l'avez eu, je crois, la convention. Et donc je vous demande d'approuver la convention territoriale globale avec la CAF et d'autoriser à la signer, la signature étant prévue au mois de décembre. Et plus précisément, je vais vous le dire. Donc je vais attirer votre attention avant qu'on passe au vote sur quelques éléments du document. Je dirais plutôt le document administratif et politique. Après, les fiches actions et les fiches projets, on verra dans la durée comment ça évolue. Parce que c'est un cadre qu'on se définit, mais on peut aussi être amené à devoir adapter ces projets en fonction de la réalité des situations. Bon, je ne sais pas si vous avez la même numérotation que moi, mais en tout état de cause, je vais vous parler, page 5, des champs d'intervention de la CAF. Donc les interventions de la CAF en matière d'optimisation de l'existant et de développement d'offres nouvelles sur le territoire des 6 communes consistent à aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. Donc établissement d'accueil jeune enfant, relais des centres maternels, centre social, accueil loisirs sans hébergement, aide à domicile, etc. Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes. Créer des conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle. Et accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. Et donc, c'est repris après dans les objectifs partagés au regard des besoins. Aider les familles à concilier la vie familiale, professionnelle et vie sociale, c'est-à-dire poursuivre la structuration d'une offre diversifiée en direction de la petite enfance. Poursuivre la structuration d'une offre diversifiée en direction des enfants. Pour faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, il s'agit de compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle. Faciliter l'autonomie des jeunes, élément de passage à l'âge adulte. Pour accompagner les familles afin d'améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement, il s'agit de favoriser pour les familles des conditions de logement et un cadre de vie de qualité, de faciliter l'intégration des familles dans la vie collective et citoyenne. Pour créer les conditions favorables à l'autonomie, l'insertion sociale et professionnelle, il s'agit de soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie familiale, accompagner le parcours d'insertion et le retour dans l'emploi des personnes et des familles en situation de pauvreté. Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont de définir les modalités de gouvernance et de pilotage du dispositif. Je vous rappelle qu'on est 6 communes, donc 6 entités distinctes. Aider les familles à concilier vie familiale, sociale et professionnelle. Accompagner les jeunes jusqu'à l'âge adulte. Soutenir la fonction parentale, quel que soit l'âge de l'enfant. Faciliter l'insertion professionnelle, l'inclusion et l'accès aux droits. Et améliorer le cadre de vie des habitants. Donc, page 6 dans l'article 6. Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en place un comité de pilotage. Alors, vous avez ensuite la composition du comité de pilotage avec la direction et présidence de la CAF et les maires des 6 communes. Cette instance a pour but d'assurer le suivi de la réalisation des objectifs et l'évaluation de la convention. Elle contribue donc à renforcer la coordination entre les deux partenaires, à savoir d'un côté la CAF et de l'autre côté les communes, dans leurs interventions respectives au sein des différents comités de pilotage thématiques existants. Elle veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le territoire concerné et elle porte une attention particulière aux initiatives et actions innovantes du territoire qui ne sont pas forcément prévues et qui pourraient apparaître. Le comité de pilotage sera copiloté d'une part par la caisse d'allocation familiale et 2 communes désignées chaque année. Donc vous voyez déjà un petit peu l'enjeu qu'on peut qualifier de politique, puisque la CAF aura chaque année 2 communes différentes dans ce comité de pilotage. En page 8, on vous indique la durée de la convention, donc qui est conclue du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025. Et simplement, après, ce sont les annexes, je crois, page 5, on vous rappelle les scénarios auxquels nous avions été confrontés en 2019. Initialement, nous avions un premier scénario avec les communes de Saint-Prié, Villars, Roche-la-Molière, Lettra, Latour, Saint-Genélaire, Lagimont, Marcenau, Saint-Christo, Fontanay, Saint-Éan. Et la CAF nous proposait de travailler dans un groupe composé de 11 communes, et c'est là qu'on s'est dit que ce n'était absolument pas réaliste. Dans un deuxième temps, la CAF nous disait, on va faire 2 groupes. Un premier groupe, Saint-Prié, Villars, Roche et Saint-Genélaire. Et un second groupe, Lagimont, Marcenau, Saint-Christophe, Fontanay, Lettra, La Tour et Saint-Éan. Donc nous, ça nous convenait à peu près, mais il y avait quand même une disproportion, puisqu'on avait 4 communes d'un côté et donc les 7 autres de l'autre côté. Et Lettra et La Tour ont souhaité donc rejoindre notre groupe donc pour composer le Saint-Prien-Jarret, Villars, Lettra, La Tour, Saint-Genélaire et Roche. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Bien vous replacer dans la compréhension des enjeux, on en a parlé. Hein, donc en fait, on va continuer à faire ce qu'on souhaite faire, les actions qu'on mène, les services que l'on propose dans le cadre des actions et projets définis. Mais la collaboration elle se fera donc au niveau des 6 communes et de la caisse d'allocation familiale. On avait déjà un partenariat très renforcé entre nos structures, en particulier je pense à la petite enfance et au pôle enfant jeunesse, entre autres, avec la caisse d'allocation familiale. Donc là maintenant on va raisonner sur une autre dimension. Et au-delà des projets et des actions qui en découlent, l'enjeu il va être, je dirais, dans le comité de pilotage, dans la direction, dans l'animation politique de ces actions. Et donc, en définitive, il ressort que théoriquement, on devrait avoir un coordonnateur ou coordinateur, comme on veut, administratif et politique, qui supervisera l'ensemble de ce processus. Et la question qui n'est pas tranchée aujourd'hui, c'est qui sera ce coordinateur. Est-ce que ce sera un agent administratif d'une de nos 6 collectivités ? Et là, je vous l'avais dit, ça sera difficile parce qu'on a des tailles totalement incomparables entre La Tour, Lettra et puis Roche et Villars. Donc ça m'étonnerait qu'une des communes consente à mettre un de ses animateurs à disposition de cette action. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, il faudra que cet animateur, coordinateur, comment dire, s'impose dans les orientations vis-à-vis des six communes, c'est-à-dire vis-à-vis des six entités politiques. Alors, si on est d'accord sur le fond, sur les projets, sur les actions, ça devrait assez bien se passer. Mais dans le quotidien, dans les problèmes qui peuvent apparaître dans le déroulé de cette convention territoriale globale, ça risque d'être beaucoup plus délicat. Donc après, l'autre option, mais je ne sais pas où on en est encore, on continuera bien évidemment à travailler. La CAF avait dit, si ce n'est pas une émergence d'une des communes, ça pourrait être éventuellement quelqu'un extérieur, en particulier un cabinet. L'avantage, c'est qu'il y aurait cette dimension un petit peu de neutralité bienveillante par rapport aux communes. Parce qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que quelqu'un qui est salarié d'une commune, dans des choix ou dans des orientations, il aura peut-être naturellement tendance à privilégier sa commune par rapport à d'autres. Donc, source ou d'incompréhension ou de conflit. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de valider cette convention. Bon, dans sa définition, je dirais, politique, elle est tout à fait concevable, puisque le but, c'est de fédérer et de gérer ces problématiques sur un territoire beaucoup plus grand en termes de surface et de population. Après, la réalité qu'on rencontrera, bon, on va démarrer sans aucune prétention à notre rythme. On va continuer à faire ce qu'on fait et puis on verra comment ça se structure. Le second élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on va perdre une partie du financement CAF que nous avions pour notre coordinateur. Puisque sur l'ensemble des six communes, je me trompe, vous me direz si je me trompe, mais je crois qu'il y avait l'équivalent de 2,5 postes de coordination et la CAF va ramener à 1 poste en financement. Donc il y a une économie, un potentiel pour la CAF, mais ce n'est pas là le but. Mais il faut bien comprendre que nous, on avait quelqu'un qui était financé à 100%, enfin un poste équivalent en plein par la CAF, bien évidemment qui ne faisait pas que du travail à destination du contrat enfance-jeunesse. Ben aujourd'hui, il va falloir qu'on redéploie et qu'on réfléchisse à une nouvelle organisation dans la gestion de ce contrat. Voilà. Avez-vous des questions? Je ne suis pas rentré en détail de l'ensemble des fiches projets actions, parce que là, c'est pour moi, c'est assez théorique. C'est une belle présentation. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses dedans. Mais ça reste théorique. Parce que ce qui sera intéressant, c'est de voir comment concrètement on le mettra en œuvre. Et déjà, dans un premier temps, comment on préservera l'existant de nos services rendus à notre population pour passer ensuite dans une autre dimension. Avez-vous des questions? Corinne? Si tu veux, ça sera peut-être plus facile. Donc, Corinne Mourgue.
Bonsoir à tous. Juste en matière du coup de financement, donc avant on avait des financements pour le CEJ, en fait, c'était l'ancien contrat enfant jeunesse. Donc si on comprend le sens du CTG, ça va au-delà de l'enfance et de la jeunesse, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça augmente pas les financements. Je sais pas s'il y a un vase communicant, mais j'y crois pas trop.
Alors,
mais je pose la question.
La CAF nous dit deux choses. Dans votre financement, on va dire, il y avait deux composantes. Il y avait du financement administratif, donc un coordinateur, et du financement par rapport à des actions, à des services proposés. Le financement des actions restera le même, même si on revoit le mode de calcul, mais il devrait rester, l'enveloppe attribuée à chaque commune devrait rester la même. Bon, après, les grilles de répartition de ces financements peuvent changer, mais l'enveloppe globale, théoriquement, resterait la même. Après, concrètement, c'est pas compliqué. Si on venait à fermer 10 lits en petite enfance, c'est évident qu'on n'aurait plus le même financement, puisque c'est un financement adossé au service proposé ou à l'action mise en place. Par contre, sur la composante administrative, on va perdre. Alors, on ne va pas perdre un équivalent temps plein. Dans la clé de répartition de ce nouveau poste, il y aura une grille, évidemment, entre les six communes. Je serais tenté de dire, mais je ne veux pas m'avancer, que les communes qui n'en avaient pas n'en auront peut-être pas demain. Donc ça va se jouer entre les quatre communes qui bénéficiaient actuellement, donc Roche, Saint-Genès, Villars et nous, qui bénéficiaient déjà d'un financement en coordination. Après, on verra. On verra. Ça dépendra aussi sur de critères soit objectifs, donc la population concernée, soit plus qualitatifs sur les actions proposées et développées. Mais on n'aura pas davantage de financement. C'est une certitude, et je l'ai dit, mauvaise langue comme tu me connais, dès le départ, que si la CAF nous proposait ça, c'est que dans sa convention d'objectifs et de gestion au niveau de la CNAF, il y avait forcément quelque part des économies de gestion à réaliser. D'autres questions ? Donc concrètement, pour nous, dans notre quotidien, sur la petite enfance, donc la crèche, le jardin d'enfants, les activités Pôle enfant jeunesse, toutes ces activités-là qui rentrent dans ce champ maintenant, pour nous, ça ne changera rien, on va continuer à faire ce qu'on fait. Par contre, on sera peut-être amené, effectivement, à se repositionner par rapport à des nouvelles actions, par rapport à des projets. Rémi ?
Oui, bonsoir Rémi Mounier. Je voulais juste rajouter un élément. Les subventions qui nous sont allouées par la CAF dépendent aussi de la volumétrie des activités que l'on fait, notamment au niveau des séjours. Et il y a, alors ça ne change rien si on continue à maintenir le niveau, par exemple au niveau des séjours. Le nombre de jours dont, pour lesquels les jeunes partent en séjour, les différents niveaux d'activité, puisque la subvention octroyée par la CAF peut être réévaluée si on venait, par exemple, demain à ne plus faire de séjour. Donc il y a aussi un intérêt à ce niveau, à maintenir un certain niveau d'activité, surtout en nombre de jours de séjour.
Alors, en termes d'intérêt, je vous invite quand même à lire ce document sur les diagnostics, parce que pour les 6 communes, vous avez énormément d'informations statistiques, démographiques, de services proposés. C'est vraiment un document de synthèse qui était... Donc, chaque commune a fait son diagnostic, a présenté ce qu'elle faisait. C'est quand même un document de travail qui est intéressant. Après, il y a une synthèse qui est faite, et puis, bon, vous avez les fiches projets et puis les actions qui pourraient se mettre en place. Parce que dans les actions, on voit bien que, concrètement, on ne sait pas trop ce qui va se passer en fonction de telle ou telle commune. Et l'enjeu, ça va être justement le positionnement de ce comité de pilotage qui devra forcément hiérarchiser dans le temps ou planifier un certain nombre d'actions qui devraient s'imposer à l'ensemble du territoire. Sous quelle forme, ça reste aussi à définir. Et puis, donc, systématiquement, ces orientations, sans parler d'actions, ces orientations puissent être validées par l'ensemble des 6 communes. Et vous savez qu'on a eu quelques péripéties dans le passé. Ce n'est pas forcément quelque chose qui sera simple. D'autres questions ? Où est-ce qu'on peut mettre au vote la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'issue de la signature officielle, donc on ne sera plus... 14 décembre, donc ça sera début d'année prochaine. On vous fera un retour, d'une part, sur la signature en tant que telle et sur l'évolution du document tel qu'il sera peut-être présenté à ce moment-là. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Christine Gezins pour la signature de la convention avec la ville de Lettra.
Alors, nous vous proposons de renouveler la convention de partenariat financier avec la ville de Lettra. L'école municipale des arts accueille depuis la rentrée 2012-2013 les anciens élèves inscrits à l'EMAD Berlioz et les éventuels enfants, adolescents ou jeunes adultes intéressés par les disciplines artistiques dispensées au sein de l'école des arts dans la limite des places disponibles. La commune de Saint-Prié s'engage à donner priorité aux résidents de Lettra dans le cadre des demandes d'inscription à l'École des arts, et ce, dans la limite des places disponibles, bien sûr. Et la ville de Lettra s'engage à participer aux frais de fonctionnement et de gestion de l'École des arts à hauteur de 9 000 euros pour l'année 2021-2022. La présente convention débute à compter de sa date de signature jusqu'au 31 août 2022. Il convient donc aujourd'hui de renouveler cette convention avec la ville de Lettra jusqu'au 31 août 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Aujourd'hui, nous avons 26 élèves stratiens qui sont inscrits à l'école municipale des arts. Voilà. Donc, ils sont prioritaires. Il y a ceux de Saint-Prié et ceux de Lettra qui sont prioritaires pour les inscriptions.
Donc, c'est un renouvellement de convention de partenariat. Avez-vous des questions ? Sachant que de mémoire, on n'a jamais refusé d'inscription, même venant d'autres communes. Ça peut arriver dans certains cours qui étaient pleins. Oui, d'accord. Ok. Enfin, c'était plutôt le choix de l'enseignement qui posait problème plutôt que le principe de venir à l'école municipale des arts. D'accord. D'autres questions ? Corinne.
Oui. Après, j'arrête. non, mais du coup, c'est juste la date, Christine, qui me surprend. C'est, on fait année par année, c'est ça ? Oui, d'accord. Parce que, il faut que c'est 31 août. Okay. Merci.
Soit les trois pourraient arrêter, soit on pourrait être plus demandeur en termes de coûts, par exemple. Si on apprend qu'ils ont de l'argent, on va peut-être augmenter, je ne sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Non, mais ça fait partie de toutes les conventions qu'on renouvelle année après année. Donc, qui est contre le renouvellement de cette convention ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, la convention est donc approuvée. Et je vais passer la parole maintenant à Michel Bisaccia pour des demandes de modification budgétaire.
Oui, donc on avait déjà le mois dernier voté, enfin la dernière réunion de conseil voté des DM. Donc je vous rappelle qu'effectivement le budget qu'on a voté en mars est un document de prévision, c'est-à-dire qu'on part sur un peu les dépenses de l'année d'avant et on essaye de voir à peu près ce dont on va avoir besoin. Mais bien entendu, c'est que de la prévision, donc il est nécessaire au fil de l'année et surtout en fin d'année de régulariser certaines sommes et surtout pour des imputations budgétaires. C'est-à-dire qu'on a pu prévoir une certaine somme, je ne sais pas, par exemple, à l'entretien du matériel roulant, on en a trop, on n'en a pas assez pour les bâtiments. On ne peut pas dire, ça fait rien, on a l'argent sur le budget. Il faut effectivement que chaque somme soit bien affectée sur chaque compte. Donc, on est obligé de faire des ajustements de comptes, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, en recettes ou en dépenses. Voilà. Donc, comme on vous propose donc la décision modificative numéro 2 qui porte en fonctionnement sur une somme qui est à zéro, vous voyez, en fait, on n'a pas besoin de crédits supplémentaires, mais on a besoin d'ajuster des crédits en fonction des différents articles parce que effectivement, on réajuste. Ce qu'on fait en début d'année, c'est toujours de la prévision. Par exemple, sur l'entretien de matériel roulant, on prévoit toujours une somme importante parce qu'on ne sait jamais trop quel casse on va avoir. Là, on voit qu'on en enlève, et pas certainement parce qu'on en a eu moins besoin que prévu. Et par contre, sur d'autres comptes, on a eu un peu plus de frais engagés, donc on est obligé de régulariser. Donc, vous voyez qu'on a effectivement régularisé chaque chapitre pour enlever 3 063 euros sur les charges à caractère général. Les charges de personnel, on a juste ajusté les comptes, en fait, parce que on a peut-être moins besoin de régime indemnitaire sur le personnel, on a eu moins de remplaçants que prévu, mais on a un peu plus de charges sur d'autres choses. Donc voilà, mais en fait la somme prévue au 0,12 reste la même. Et sur les charges de gestion courante, sur les charges à caractère général, on a enlevé 3 000 euros qu'on a mis sur les charges de gestion courante parce que ça c'est effectivement des admissions non valeur et créances éteintes, c'est ce qu'on vous fait voter assez régulièrement. Sur les recettes, vous voyez que c'est à peu près pareil. On a enlevé, par exemple, 54 000 sur le chapitre 74 parce que la compensation de taxe d'habitation n'a pas été aussi importante que celle qu'on avait évaluée parce qu'effectivement, c'était un peu... comme c'était la première année, on ne savait pas trop ce qu'ils allaient nous verser. Par contre, on a d'autres choses qui ont été plus importantes, comme par exemple la compensation de la taxe foncière. Donc là, ce sont uniquement des décisions et des modifications d'articles qui n'imputent pas en fait le montant total, puisque le montant est à zéro et s'équilibre à zéro. Par contre, pour les dépenses d'investissement, là c'est pareil, ce sont des prévisions. On a besoin là d'un peu plus d'argent, puisqu'on on ajoute la somme de 50 763 euros pour ajuster un peu les comptes d'ici fin d'année. Alors là, c'est pareil, on ne dépensera peut-être pas 50 763 euros d'ici la fin de l'année, mais vous savez qu'à partir du moment où il n'y a plus d'argent sur un compte, on ne peut absolument plus payer les factures. Donc si on a une facture qui tombe début décembre, on ne peut pas dire aux gens, excusez-nous, mais on ne vous payera pas avant le mois de mars. En principe, ils n'apprécient pas trop, et surtout on n'a pas le droit, puisque maintenant on a 20 jours pour payer les factures. Donc on a effectivement sur des frais d'études un peu plus besoin d'argent. Par exemple, vous voyez, ça se...
Simplement les frais d'études, c'est les honoraires dans le cadre d'Epora et de Zeppelin sur la Villa Saint-Michel.
Voilà. Donc il y a on n'avait pas prévu que ça aille si vite, en fait, et que du coup on soit obligé de tout payer sur 2021. Voilà. Donc vous pas vous faire le détail, vous avez dû regarder, hein, vous voyez, c'est surtout, on a eu un peu plus, donc surtout sur les frais d'études, les subventions d'équipement versées, ça c'est ce qu'on verse au ciel, hein, vous savez, les participations, chaque fois qu'on a une délibération ciel sur des travaux, on a une participation de la commune, et là c'est pareil, si des travaux se sont terminés plus tôt que prévu, ben, du coup le ciel nous demande la participation plus tôt que prévu, donc c'est ce qui a dû arriver, c'est pour ça qu'on a, voilà. Par contre, on a effectivement, parce qu'on est obligé de présenter des décisions modificatives équilibrées, exactement comme le budget. On ne peut pas présenter en déséquilibre. Donc, on a mis 18 600 euros de plus sur les taxes d'aménagement parce qu'on a eu effectivement... Vous savez, quand on prépare le budget, on grossit toujours un peu les recettes et on diminue un peu les dépenses. Pardon, on grossit les dépenses et on minimise les recettes. Donc, sur les taxes d'aménagement, bon, on a 18 600 euros de plus. Et en plus, on a pu inscrire des subventions dont on n'avait pas connaissance au moment du budget primitif et dont on a eu les arrêtés après. Voilà, donc l'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 50 763 euros. Sachant qu'il y aura certainement une autre décision modificative plus importante au dernier conseil municipal et surtout on aura ce qu'on appelle les autorisations de programme puisque vous savez qu'en investissement, en fonctionnement, quand on passe d'une année à l'autre, on a le droit d'ouvrir des crédits. Enfin, c'est automatique en fonctionnement. On a un quart des crédits qui sont ouverts puisqu'on vote le budget qu'au mois de mars. Par contre, en investissement, il faut qu'on prévoie les programmes qu'on fait en début d'année parce que sinon, on n'a pas effectivement l'autorisation de les engager. Donc ça se fait normalement toujours lors de la dernière réunion de conseil de l'année. Voilà.
Au mois de décembre, on aura les ajustements budgétaires comme vous l'avez vu là. En fait, c'est au sein même de nos dépenses, entre le fonctionnement et le personnel, des changements de rubrique, hein, tout simplement. Hein. On a dépensé un peu plus, par exemple, sur le recours à des vacataires. On a dépensé un peu moins sur des CDI. Donc voilà, c'est des ajustements. Et puis, donc, effectivement, les dépenses d'investissement urgentes qu'on pourra engager dès le début janvier. Des questions par rapport à ces deux modifications ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, elles sont approuvées à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Mireille pour les compléments de subvention.
Lors du conseil municipal du 3 mai dernier, vous avez approuvé le versement des subventions aux associations pour l'année 2021. En raison du contexte sanitaire, certaines subventions étaient restées en suspens dans l'attente de savoir si les associations redémarreraient ou réaliseraient leurs projets. Donc, il y avait concerné Tranche d'Assos pour une subvention de fonctionnement de 1 500 euros, Ayelou, qui est le commerce équitable péruvien, pour 750 euros, et qui ne savait pas effectivement s'ils allaient redémarrer après cette période de non-fonctionnement. Et le Cercle de Saint-Prier, qui était la subvention exceptionnelle pour l'organisation du 14 juillet de 500 euros. Donc, je vous propose de réexaminer les subventions précitées. Alors, Tranche d'Assos, donc c'est la course qui est organisée annuellement sur Saint-Prier en Jarret, donc normalement qui va avoir lieu de nouveau en 2022 pour 1 500 euros. Ayelou, qui a organisé une réunion et qui a de nouveaux membres qui sont venus grossir l'association et qui va pouvoir redémarrer, donc 800 euros. Le Cercle de Saint-Prier pour 2 800 euros, qui est une subvention exceptionnelle. Alors là, en fait, il y a eu une demande pour les 2 000 euros de loyer. Pendant la pandémie, le cercle n'a pas fonctionné, mais le loyer a continué. Donc, on verse 2 000 euros pour ce loyer. Il y a 500 euros, donc c'est pour l'organisation du 14 juillet, et 300 euros parce qu'ils ont organisé la fête du goût dans leurs locaux. Et puis, on propose également de verser une subvention exceptionnelle au comité de jumelage. Il y a toujours des difficultés alimentaires au niveau des cantines de Lille. Et on leur octroie une somme de 2 000 euros pour pouvoir abonder à ce déficit de nourriture là-bas.
Donc, si vous voulez des précisions sur le cercle de Saint-Prié, on vous propose une subvention exceptionnelle dans les 2 800. Il y a 2 000 euros. En fait, c'est un remboursement du loyer qu'ils nous ont payé alors qu'ils étaient fermés pour les différents confinements successifs. C'est le seul cercle qui nous verse un loyer. Les autres, on les héberge gracieusement. Et ils ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'on est fermé. On a émis le titre en fin d'année 2020 et ils ont payé. Donc, ce que j'ai dit à l'époque, c'est pas logique puisque vous étiez fermé, donc pas de recette, pas d'animation. Puisqu'on ne peut pas neutraliser la recette, on vous fera une subvention exceptionnelle au titre uniquement de cette année qui a connu, enfin de cette période de 12 mois qui a connu 3 confinements. En ce qui concerne le comité de jumelage, on en avait déjà parlé l'an dernier. En décembre, il nous a demandé une subvention exceptionnelle de 4 000 euros parce qu'il y avait un contexte de réalité et d'opportunité à l'île Sainte-Marie. La réalité, c'était le constat que les enfants, quand ils sont mieux nourris à l'approche des examens, ben, il y a une corrélation avec une meilleure réussite aux examens. Ça, c'était une première chose. Et la seconde, c'était sur l'opportunité d'acheter beaucoup plus de riz, puisque c'est l'aliment essentiel de nourriture à Sainte-Marie, y compris en bénéficiant des taux de change. Donc, ils nous avaient demandé 4 000 euros. On les avait rencontrés. On leur avait dit, sur 2020, on ne peut pas vous accorder une subvention complémentaire. C'est trop tard. Par contre, on leur avait fait une avance de trésorerie sur la subvention 2021. Et on avait dit, on examinera ensuite une éventuelle subvention exceptionnelle. Donc là, ils nous l'ont formulé à hauteur de 3 000 euros. Ce qu'on avait demandé donc au cercle de Saint-Prié et au comité de jumelage, puisque les autres étaient déjà des décisions antérieures, de nous produire un petit peu un compte d'exploitation. Donc ils nous demandent 3 000 euros, sachant que ils avaient obtenu, enfin début 2021, d'autres financements, parce que c'est quand même une association qui ne garde pas d'argent et qui ne place pas. Tout l'argent qui rentre, il est immédiatement redistribué, soit sous forme de nourriture, soit sous forme d'équipement, des écoles, des sanitaires, etc. Donc tout euro collecté est un euro, je dirais, qui est dépensé. Donc on a simplement estimé que, compte tenu du fait que début 2021, on ne leur avait pas accordé les 4 000 euros, mais un petit peu par notre truchement, par notre intermédiaire indirect, ils avaient quand même collecté quelques fonds. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de ramener les 3 000 euros qu'ils nous demandent à 2 000 euros à titre exceptionnel. Parce que c'est vrai que, compte tenu de l'action qu'ils mènent, 2 000 euros pour leur accorder en plus chaque année, ça serait du consommé. On n'arrivera jamais à résoudre les problèmes, en particulier sanitaires et alimentaires, mais c'est simplement une réponse à l'aide qu'ils nous avaient demandée maintenant, il y a un an. Voilà. Des questions par rapport à ces propositions de subventions complémentaires ? Donc, on va les mettre au vote. Est-ce que vous souhaitez qu'on les vote individuellement ou globalement ? On va voter globalement, puisqu'il n'y a pas d'opposition, au moins sur l'une. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, on valide ces subventions exceptionnelles complémentaires. Et après, tu continues ?
C'est la subvention exceptionnelle à l'association du COS. Donc, comme tous les ans, pour les médailles, les départs en retraite, quand on connaît le nombre exact de ces médailles et de ces départs, on verse une subvention exceptionnelle qui s'élève à 2 000 euros cette année.
Alors, le COS, c'est le comité des œuvres sociales, donc l'équivalent d'un comité d'entreprise. Donc, il a une dotation annuelle. On a voté au mois de mai avec les autres. Et puis, historiquement, c'était la façon la plus simple pour les médailles et les départs en retraite qui peuvent être, n'est-ce pas Corinne, par certains aspects considérés comme des avantages en nature, d'un point de vue de l'URSSAF. Ce qui avait été mis en place il y a longtemps maintenant, puisqu'on était au début des années 2000, c'était le COS qui payait, qui se faisait rembourser sous forme d'une subvention exceptionnelle par la mairie, ce qui évitait à la mairie de payer directement et ainsi de constituer des avantages en nature soumis à cotisation. Donc, comment ? Chacun fait comme il peut. Donc, la règle, c'était qu'on remboursait à l'euro près. Or, pour cette année, nous avons 6 médailles et 4 départs en retraite. Ce qui fait que le COS va attribuer, ce sont des bons d'achat, hein, 5100 euros. Pourquoi ils nous demandent que 2000 ? Parce que logiquement, les autres années, ils nous auraient demandé 5100 euros. Justement, parce que l'an dernier, comme ils n'avaient pas tout dépensé, ils en ont affecté une petite partie au comité de jumelage. Et la trésorière m'a dit, bon, j'avais compris que vous aviez un petit peu réagi à cette utilisation. Donc, cette année, nous, COS, on va faire un effort également. Et au lieu de vous demander 5100 euros, on ne vous demandera que 2000. Voilà. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide l'attribution des 2000 euros complémentaires au comité des œuvres sociales. Et je vous en remercie pour eux. Comme chaque conseil, presque maintenant, je vais vous parler du RIFSEP, régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, suggestions, expertise et de l'engagement professionnel. Donc, là aussi, il s'agit d'une mise à jour, puisque chaque conseil où on vous propose des modifications, c'est soit pour des mises à jour sur les fonctions et les emplois, soit sur une actualisation des bases sur lesquelles sont calculées ces indemnités. Par délibération 17-12-19 du 5 décembre 2017, le Conseil municipal a instauré un régime indemnitaire donc qui fusionne les systèmes d'indemnité qui existaient antérieurement, tenant compte des fonctions, suggestions, expertises et engagements professionnels pour l'ensemble des postes existants à ce jour au sein de la commune. Je crois qu'il y a que les policiers, hein, Frédéric, qui ne sont pas intégrés au dispositif. Ils ne le sont pas parce qu'en fait, ce dispositif s'applique aux collectivités locales par extension de la fonction publique d'État. C'est pour ça qu'en fait, les bases sont définies par rapport à la fonction publique d'État. Et après, c'est transféré sur les collectivités, au même titre qu'on a eu longtemps, par exemple, pour les professeurs de l'école municipale des arts. Mais encore actuellement, je crois bien, non ? Ils sont intégrés maintenant ? Non, ils ne sont toujours pas intégrés. Parce que ce sont des métiers qu'on ne retrouve pas forcément dans la fonction publique d'État. Et donc, par extension, on ne les a pas. Ça viendra sans doute un jour. Pour les policiers, à mon avis, je crois que compte tenu de leur statut particulier, ça ne sera jamais le cas. Ce régime indemnitaire étant défini par catégorie, groupe de fonctions et emplois, il convient d'adapter la délibération en fonction des emplois supprimés et ou à pourvoir en notre collectivité. Et donc, la délibération 20-09-10 est donc modifiée comme suit. Donc, la seule chose qui change par rapport à la délibération antérieure, c'est dans le groupe de catégorie A, l'apparition d'un référent, référente santé et accueil inclusif. C'est le poste d'auxiliaire puériculture à mi-temps, enfin à 18h, que nous avons créé en remplacement de la directrice de la petite enfance qui est partie en disponibilité. Donc on retrouve cette référence, donc référent, référente santé et accueil inclusif dans le groupe 2 catégorie A pour l'IFSE. Et on le retrouvera également pour le CIA en catégorie A, également groupe 2, référent, référente santé et accueil inclusif. Voilà. Donc là aussi, c'est une actualisation de l'évolution de nos métiers et emplois. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc à l'unanimité, le tableau est mis à jour. On va repasser la parole à Christine qui va nous parler du désherbage.
Du désherbage,
c'est le mot, oui. Hein, de la médiathèque.
Qui se fait sans gants. Tout au long de l'année, la médiathèque désherbe ses collections pour faire de la place aux nouveaux documents acquis et de présenter les nouveautés éditoriales. Les documents obsolètes en double, non empruntés depuis 5 ans et plus, ou dont l'auteur est trop représenté, sont retirés. Ces livres ont été proposés à la vente le dimanche 12 septembre 2021 dans le cadre du vide-grenier de Saint-Priest-en-Jarret. Le fruit de cette vente sera versé à l'association CHU Kids 42, dont l'objectif est de soutenir les enfants hospitalisés par des actions culturelles. Les fonds récoltés seront remis symboliquement par M. le maire. Donc nous avons déjà la date, c'est le 19 novembre. Voilà. La... À 18h30. Voilà. Tout le monde est convié, bien sûr. La somme de 263,40 € servira à organiser des lectures ou une séance de compte pour les enfants malades ou encore à acheter des livres adaptés aux enfants pour le service pédiatrie de l'hôpital Nord. Ce don permettra ainsi aux enfants malades d'accéder à la lecture et à la culture. Il convient donc de reverser la somme de 263,40 € à l'association CHU Kids 42. Donc, je vous rappelle que l'an passé, lors du désherbage, l'argent avait été versé à l'association Méli-Mélo. Voilà, donc à chaque fois, chaque année, on changera, je pense.
Donc l'idée, c'est de dire, plutôt que de jeter des livres, c'est toujours mal au cœur, même s'ils sont très anciens, même s'ils sont très peu demandés, c'est de les vendre à un prix symbolique. Et c'est donc c'est la deuxième fois qu'on le fait et ça marche plutôt bien. Donc là, nous avait semblé... Alors la dernière fois, c'était le jour du Tour de France.
Oui.
De mémoire. Donc c'était en 13 juillet 2019. Et puis là, on a jugé opportun de le faire pendant le vide-grenier. Là aussi, c'était une bonne opportunité.
C'était la remise de chèques qui avait été de chèques au mois de juillet. Et la vente de livres avait eu lieu le samedi 15 juin. Voilà.
Donc l'idée, c'est que on renouvelle cette opération en espérant qu'il y aura de plus en plus de gens qui viendront. Parce que vraiment, y compris pour les livres d'enfants ou les BD, il y a vraiment des belles opportunités. Et puis cet argent, on le servira au profit d'une association plutôt que de savoir que les livres sont partis quelque part, peut-être même dans un broyeur. Voilà, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, c'était une idée qui avait été apportée par Élise quand elle est arrivée à la tête de la médiathèque et bien évidemment qu'on a validée. Donc là, c'est une décision donc, que vous devez valider sur le reversement de la somme collectée. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on valide la remise du chèque à l'association CHU Kids 42. Donc voilà, le conseil, on le savait, ne serait pas très, très long. C'est normalement le conseil d'octobre qu'on avait reporté. On voulait attendre justement, d'une part, les modifications budgétaires et puis l'avancée sur la convention territoriale globale. Moi, je vous rappelle quelques éléments. Donc, mercredi soir, nous, au NEC, à 19h, nous avons l'accueil des nouveaux arrivants. Donc ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, le maximum d'élus présents, puisque vous serez amenés à monter sur la scène. C'est une expérience à vivre. Le lendemain, à 10h30, pour ceux qui pourront être là, la cérémonie du 11 novembre. On départ à 10h30 de la mairie. Pour sans doute la dernière fois monter au monument. Pourquoi la dernière fois? Parce qu'après, nos seniors et nos anciens reconnaissent que maintenant, c'est trop difficile pour accéder au monument. Puis après, on revient en mairie pour d'autres discours. Alors, je vous rappelle qu'avec Mireille, on a retenu l'idée que chaque année, on allait... Alors, on les avait tous présentés au moment de la cérémonie du 11 novembre 2018, on va à nouveau évoquer la vie et le sacrifice de deux poilus, Mounard, qui sont tombés dans ces années-là. Donc cette année, on évoquera deux tranches de vie, je dirais. Mireille, on ira à une. Michel, une autre. Indépendamment des discours officiels. Les discours officiels, donc il y a le discours de la Fédération nationale des associations d'anciens combattants. Et je pense que c'est la représentante de la FNACA qui le lira. Et puis ensuite, on a le discours du ministère. Et là, je pense que ça sera... un représentant du Conseil des jeunes qui le lira. Ces deux discours seront lus au Monument aux Morts. Donc là aussi, je vous invite à nous rejoindre jeudi matin. Et enfin, c'est plus sympathique, le 24 novembre, ce sont les anniversaires de mariage. Donc on ne l'a pas fait l'an dernier. Et donc cette année, nous avons 10 couples pour qui nous allons fêter leurs anniversaires de mariage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions diverses, des évocations, des choses que vous voudriez évoquer? Corinne, vas-y. Corinne Mourgue.
Oui, j'ai une question sur la prime inflation. Vous avez des informations sur le versement pour les salariés de la municipalité? qui a fait de la mairie.
La prime pour d'achat, inflation, carburant, tout ce que tu veux, les 100 euros. On n'a aucune information, sachant que ce qui est annoncé pour les salariés et normalement également ceux du public, c'est 100 euros qui seraient versés avec la prime de décembre. Bon, la mécanique de gestion de paye, nous, on l'assumera. Notre interrogation en tant qu'employeur, c'est de dire, est-ce qu'on sera vraiment remboursé ? Parce que c'est souvent, l'État nous dit, avancez et on vous remboursera après. Sur les employeurs, je crois que ça se traduira dans le privé par une baisse des charges ou quelque chose comme ça, un ajustement sur les charges. On verra. Mais oui, effectivement, on attend maintenant. Je dirais, là aussi, il y a une intention qui est affichée politiquement. Et puis après, il faut qu'on soit en capacité de la mettre en œuvre, sachant que là aussi, on est maintenant mi-novembre. Nous, la paye mi-novembre est quasiment ficelée pour le mois. Donc, il faudrait qu'on ait les instructions, si possible, avant la fin du mois. Voilà. Mais oui, il est prévu de la mettre en place et il est prévu qu'on en soit théoriquement remboursé. D'autres questions ? Donc, on va se quitter, si vous le voulez bien. Je vous rappelle que le prochain conseil se tiendra le lundi 13 décembre à 19h et que nous aurons, donc une semaine avant, le lundi 6 décembre, une plénière au cours de laquelle on vous présentera une personne qui viendra vous... Je dirais pas vous présenter, mais vous... Je vais vous présenter un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mutuelle communale. Alors ça, c'est pas ma commune, ma santé, c'est pas Axiom. Là, c'est une personne qui travaille pour un groupe d'assurance. La démarche est exactement la même. Elle est intéressante. Donc là aussi, avant qu'on initie cette démarche pour la commune, on a souhaité l'inviter dans le cadre d'une réunion plénière pour qu'elle vous présente le dispositif. Là aussi, on ne sera pas dans une logique d'exclusivité. C'est-à-dire qu'elle viendra représenter un groupe d'assurance, mais on lui a déjà dit que nous solliciterons également, on va dire, l'association, si on veut appeler ça comme ça, Ma Commune, Ma Santé, mais qui en définitive regroupe et des mutuelles et des assureurs, donc ça revient à peu près au même. On avait déjà eu une première approche en 2014, on n'avait pas donné suite. Moi, j'étais personnellement favorable, mais peu importe, il y avait d'autres raisons qui l'avaient emporté. Donc voilà, on viendra vous présenter l'idée de cette mutuelle communale. C'est un petit peu un contrat de groupe, si vous voulez, un petit peu comme on a aujourd'hui pour l'achat d'énergie dans les communes. Et l'avantage du système, on en reparlera, c'est que bien sûr, vous n'avez aucune obligation d'adhérer, mais surtout, il y a une comparaison qui peut être faite entre ce qu'il propose en fonction de votre âge et ce que vous avez déjà. Parce que bien souvent, on s'aperçoit que plus on vieillit, on garde nos complémentaires, et que ce n'est pas forcément le plus avantageux en termes d'opportunités financières. Donc voilà, elle vous présentera tout ça. Ça sera intéressant. Et puis après, nous, dans le temps, on décidera. D'autres remarques ? L'information, peut-être, c'est que demain, avec Mireille, Jean-François et Paul, on va à l'Assemblée générale du SECAM, qui réfléchit à son devenir. Alors, le SECAM, c'est le club des entreprises commerce et artisans Mounard, qui était un relais que nous avions avec le monde économique de la commune. Alors, ce n'était pas exhaustif, il n'avait pas toutes les entreprises et 350 ou 400 entreprises de la commune, mais c'était quand même un lien intéressant, en particulier pour les nouvelles entreprises qui s'installaient. Donc, dans l'hypothèse où le SECAM ne pourrait pas continuer, il faudra qu'on réfléchisse, nous, à mettre en place un lien. Alors, il faudra en définir les formalités avec le monde économique. Ça me semble important qu'ils n'aient pas le sentiment d'être oubliés, parce qu'on est quand même bien content qu'ils soient présents sur la commune. D'autres remarques, questions ? Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, mercredi soir, les nouveaux arrivants au NEC à 19h. Merci à vous.